Booster Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borne et Bernard Mignoni, bonjour. Vous emmenez au cinéma.
Bonjour.
Comme chaque semaine, et cette fois-ci, nous parlerons de deux films, et puis chacun de vous nous parlera d'un film récent qui lui tient à cœur. Alors, les deux films sont Pauvre créature et Le voyage en pyjama. Pauvre créature, c'est un film de Yorgos Lanthimos, avec notamment Emma Stone. Et je pensais que c'était vraiment un objet cinématographique pur. Eh bien, imaginez-vous que c'est l'adaptation d'un roman d'Alasdair Gray. Alors, il a déjà eu le film Le Lion d'or de la Mostra de Venise. Il reçoit le Golden Globe du meilleur film musical et de comédie. Et Emma Stone est sacrée meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Donc c'est absolument énorme. Il s'agit de l'histoire de Bella Baxter qui se noie et puis qui sera ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter qui lui greffe un cerveau d'enfant à naître. Alors elle est avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, évidemment. Et elle s'enfuit avec un avocat habile et débauché et embarque pour une audition étourdissante à travers les continents. On écoute la bande-annonce.
Moi, c'est Bella Baxter. Je suis faillible et j'ai besoin d'expérience. Bella sort et vit des aventures. Donc Bella a beaucoup à découvrir.
Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue.
Je trouve qu'être en vie est une chose fascinante.
Bella.
Pourquoi le garder dans ma bouche si c'est dégoûtant? Je vais aller taper ce bébé.
Il est primordial d'expérimenter tout ce qui existe. Pas seulement le bon, mais aussi la déchéance.
Si on chantait...
L'horreur. La tristesse.
Bella !
Alors seulement on peut appréhender le monde. Et une fois qu'on le connaît bien... Ce bon vieux monde est à nous, trésor.
J'en veux plus !
Non ? Un de plus, ce serait en abuser.
Dominique Borne.
Oui, ben c'est fou. C'est un film fou, baroque, ouais. Qui vaut mieux ressentir qu'essayer de comprendre, même si celui-ci est plus linéaire que ses précédents, The Lobster et La mise à mort du cerf sacré, qui était un petit peu plus abscon. Voilà, mais là, si on suit l'itinéraire de Bella, ben c'est un petit peu la fiancée de Frankenstein, qui aurait regardé du côté de Terry Williams, de Tim Burton ou de Wes Anderson, et puis influencé aussi par Lewis Carroll, parce que c'est un peu Alice au Pays des Merveilles et des Monstruosités, dans un décor à la Gaudi. Alors si on mélange tout ça, on a un film complètement fou, complètement baroque, qui est assez... Moi, j'ai assez aimé tout de même, même si on est un peu perdu, mais on se retrouve, enfin, on se perd et on se retrouve. Bon, il y a un va-et-vient de la conscience et de l'inconscience et de l'imaginaire. Indiscutablement, c'est un créateur parce qu'il a son univers et que cet univers échappe à toute logique. Donc, il y a quelque chose, voilà. Il passe d'une ville à l'autre, Paris à Lisbonne, mais c'est toujours le même genre de décor. On n'est ni à Paris ni à Lisbonne, on est dans son univers, quoi, voilà. Cette femme qui a un cerveau d'enfant découvre le monde aussi, donc elle découvre avec naïveté, surprise. C'est aussi un pamphlet presque féministe, parce qu'elle regarde le monde des hommes, et puis elle est obsédée par la sexualité, puisque ça, c'est très important. C'est ce qui jalonne toute sa vie, tout son itinéraire. Voilà, donc il y a tout. Il y a l'obsession, il y a le décor, il y a la vision des autres. Mais quand elle n'aime pas quelque chose, elle leur crache, elle fait scandale. C'est une enfant qui en est. Quand on connaît un peu les enfants, on n'est pas très loin de l'univers de l'enfant, en effet, qui est logique, qui est toujours logique, mais d'une logique déconcertante pour les adultes. Alors c'est un film, voilà, sur un enfant qui déconcerte les adultes dans un décor complètement fantasmagorique. C'est pas inintéressant tout de même.
Ah oui, loin de là, moi j'ai pensé, je me suis dit en sortant, c'est le Peter Greenaway grec.
Oui, aussi, il y a un peu de ça, oui. Hein,
Marie-Noëlle.
Oui, alors je suis quand même étonnée par ce que vient de dire Dominique, que c'était un film féministe, parce que c'est quand même curieux à notre époque de féminisme échevelé, cette passion d'habiller les femmes, de les déguiser en poupées. Oui. On a eu Barbie, on a eu Priscilla, et maintenant on a Bella, qui était d'ailleurs une marque de poupée dans mon enfance. Voilà, donc les femmes poupée.
Oui.
Est-ce que c'est très féministe? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, elle prône pas, elle expérimente.
Elle envie,
non, ça n'a rien. Il n'y a aucun. Justement, le personnage est curieux parce que c'est une sorte de poupée sans affect, sans émotion, sans réflexion, puisqu'elle est créée à partir d'un suicide, il faut dire, d'une femme qui s'est noyée et qui était enceinte. Et cette espèce de docteur Frankenstein. Qu'il va prendre le cerveau du bébé pour le mettre dans le corps de la mère, de sorte que elle a un cerveau d'enfant dans un corps de femme. C'est cette greffe qui est le point de départ des péripéties. Alors elle est en effet sans pensée, sans conscience, sans affect, sans encore plus sans morale, évidemment. Et c'est donc un personnage très expérimental. C'est le côté, moi, qui m'a le plus amusé et intéressé, que je trouve le plus original, c'est que... c'est une espèce de créature reconditionnée, comme il y a des téléphones reconditionnés, n'est-ce pas ? Donc elle est... Et qui n'est pas dans les conditionnements, justement, de notre époque. On est dans une époque très moralisatrice. Elle n'a aucune morale. Donc, par exemple, la sexualité, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est un appétit. La prostitution, ce n'est ni bien ni mal, c'est un gagne-pain occasionnel par des acrobaties parfois agréables, parfois non. Il y a de tout, mais la tenancière du bordel où elle se trouve à Paris, parce que c'est naturellement Paris quand même qui est la ville des bordels.
Les extases.
Donc la tenancière lui dit, bon, les expériences, la vie, il y a des mauvaises expériences, c'est très bien aussi, il faut tout connaître de la vie. Donc ce côté... amoral, vraiment amoral, et n'est pas inintéressant à notre époque de moraline extrême. Et l'autre tendance de notre époque, c'est l'invasion des affects, des émotions, etc. Et elle, pas du tout.
Ah, imperméable.
Pas du tout. Complètement. Voilà. Et donc ça, c'est assez décapant pour de nos stéréotypes et de nos clichés. Oui, elle en est complètement dépourvue. L'amour, la jalousie, l'idéalisation sentimentale du désir, l'emprise ou la domination, tout ça, ça lui est parfaitement étranger. Et ça, ça donne une note... Que je trouve intéressante. Néanmoins, là, moi, j'ai été consternée par l'esthétique du film. Je n'aime pas du tout l'univers de Yorgos Lanthimos. Je trouve que c'est hideux. Et ça me gêne beaucoup. C'est vraiment complètement... C'est un style, on ne peut pas dire le contraire. Ouais. Je ne lui retire pas ça du tout. Mais c'est un style qui est, pour moi, extrêmement pénible. Tout est laid, tout est déformé.
Bon.
Là, avec un maniérisme visuel, la caméra est constamment présente. On a des objets feuille de poisson qui déforme l'image, un chromatisme violent, délibérément moche. Donc pour moi, c'est très pénible cette laideur visuelle. Et puis l'interprétation outrancière. Emma Stone est vraiment parfois déplaisante à voir, désagréable. Donc voilà, ça m'est pénible.
Bernard, faites-nous la synthèse de ces deux.
Non, moi, j'aurais tendance à dire que la forme l'emporte très nettement sur le fond. Alors, oui. Je m'éloignerai de Marie-Noël parce que je trouve que c'est l'esthétique du film qui brille de mille feux. Ah, Vous avez quand même des décors somptueux et des costumes fastueux qu'on peut détester, qu'on peut trouver pompiers,
Gaudi,
évidemment.
Et Dominique.
Mais Gaudi, c'est quand même plus beau que cela.
Et plus profond.
Mais c'est vrai que ça retient l'œil et les regards, indéniablement. Et puis, entre absurdité, étrangeté et alacrité, le film baigne dans une constante singularité. Et quand même beaucoup plus plaisant que The Lobster ou La mort du cerf sacré, à mon goût. Vous avez en plus une construction dramatique qui va, mes camarades l'ont dit, de Londres à Paris, en passant par Lisbonne et Alexandrie, et qui offre à l'ensemble une plaisante dynamique qui est bâtie à la fois sur des rencontres atypiques et des vicissitudes toujours ironiques. Parce qu'en fait, ça glisse sur elle. Le malheur est là, elle pourrait être souillée, mais pas du tout. Elle traverse ça comme un roc de granit, en fait. C'est une dérision constante qui irrigue le film, qui est grinçante d'ailleurs, mais qui dégonfle la nature sordide tout de même et complaisante d'une production à la froideur parfois éprouvante. Et là, je rejoins Marie-Noël, cette froideur, elle est là dans les précédents films de Yorgos Lanthimos, notamment dans La Favorite, mais aussi dans The Lobster. Maintenant, il se présente que le metteur en scène comme quelqu'un d'anticonformiste, mais il y a des limites à cet anticonformisme, puisque, à titre personnel, moi, je trouve qu'il cède aux sirènes du féminisme, comme l'a dit Dominique, confère l'épilogue, et même du wokisme, qui est là, le personnage de la militante socialiste qu'on voit à la fin, ou le jeune amant d'Anna Tchigoula, qui sont, à mon avis, des représentants du wokisme. Donc, ils cèdent quand même à la mode. Donc, anticonformiste, à prendre avec des pincettes. Le passage à Paris est quand même très alourdi par son érotisme rabougri et ses situations reproduites à l'envi. Il y a une scène, moi, qui m'a gêné, pourtant, je ne suis vraiment pas bégueul, mais cette scène où vous avez le parent, le père de famille qui montre à ses deux jeunes enfants, ils sont quand même très jeunes les deux garçons, comment est-ce qu'il faut faire avec une femme dans une maison close, j'ai trouvé ça un petit peu contestable.
C'est une provocation terrible.
Oui, mais là ils sont quand même très jeunes les deux fils. La durée est quand même bien excessive. Comme toujours chez le metteur en scène, les personnages mis à l'honneur ne suscitent guère la sympathie, faute de cœur. Et puis outrance, exubérance et non-sens sont ici un peu quand même les paravents de l'insuffisance. Alors je dirais pour conclure que malgré un clin d'œil évident, un tel spectacle ne réussit pas à se hisser à la hauteur des adaptations cinématographiques de Frankenstein. Il ne suffit pas d'un cobaye et d'un laboratoire pour franchir le clap de bonne expérience.
Alors, nous passons au voyage en pyjama de Pascal Thomas, avec Alexandre Laforie, Constance Labbé, Lolita Chama. C'est charmant. Victor, il a une quarantaine d'années, il est professeur de lettres, il est en vacances, il est aussi prévisionniste amateur à Météo France. Et alors, c'est une sorte de dilettante sympathique qui se laisse vivre au gré du vent, aux côtés de Dan, qui est sa compagne, qui commence un peu en avoir marre. Et alors, c'est une chronique sentimentale, à la fois burlesque et mélancolique. Alors, on va dans tous les lieux de son passé. Il va retrouver ce que sont devenus ses amis, au féminin, au masculin. Et puis, il croit surtout ses anciennes compagnes. Alors, toutes regrettent et qu'il y avait toujours quelque chose à lui reprocher, peut-être parce qu'elles ont trop aimé cet être si aimable, rêveur, imprévisible et surtout insaisissable. On écoute la bande-annonce.
Excusez-moi, le vol de 9h15, s'il vous plaît.
Pourquoi à votre départ?
Vous appelez Paul-Émile, dit Victor. Vous êtes le mari d'Anne, vous êtes professeur de lettres et vous avez une grenouille qui s'appelle Ninette. Je pars pour Compostelle à vélo.
Et si je venais avec vous?
Ben pourquoi pas? Déjà vu?
Je crois pas, non.
En tout cas, je m'appelle Antonella.
Et moi, Victor.
Enchanté.
J'ai connu une Allemande qui me ressemblait étrangement.
Vous l'aimiez?
Beaucoup, oui. Et elle, je crois qu'elle m'aimait un peu trop.
On n'aime jamais trop.
Allez, à Jacques Test.
Il faut se laisser porter comme un bouchon à la surface de la rivière.
C'est un peu ce que je fais en ce moment.
Beaucoup, beaucoup de charme à la française pour moi, Dominique.
Oui, oui, du charme, un petit charme, disons. Parce que ça pourrait être le pendant de celle qu'on n'a pas eue, réalisée par Pascal Thomas il y a quelques années. Là, c'est plutôt celle qu'on a eue. Qu'on a quitté ou qui vous ont quitté et qu'on va retrouver l'espace d'un instant.
Le monde a passé, celle qu'on n'a pas eue, c'était en 81.
Oui, bah oui, c'est
bah oui, bah le monde a changé, mais bah oui, son regard.
Mais son regard, pas tellement.
Non.
C'est ça.
Mais c'est
non,
ça
son regard n'a pas. Oui, c'est ça. Alors, Alexandre Laforie est un peu le double de Pascal Thomas, on l'a compris. Le double lunaire du réalisateur, hein, qui part sur la route en vélo, retrouve quelques femmes donc, qui ont jalonné sa vie. qui ont fait son indécision, surtout, parce que c'est un grand indécis. Voilà, puis à un moment, il prend un scooter, il y a un clin d'œil au Nanni Moretti de Journal Intime, on a compris. Il traverse la campagne, une vieille connaissance qu'il n'a pas oubliée, une fille qui pourrait être la sienne, deux lesbiennes accueillantes, un certain temps, et deux vieux copains. C'est le carnet de route d'un visiteur sur la Terre. Mmh. Et je reprends un titre de Julien Green, mais il y a un peu de ça. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique, ça a beaucoup de charme, c'est tout petit. Et on peut dire tout de même pour l'anecdote qu'il y a beaucoup de filles et de fils d'eux, parce qu'il y a la fille de Delon, Anouchka, il y a Lolita Chamal qui est la fille d'Isabelle Huppert, et puis il y a Christian Vadim, le fils de Vadim et de Deneuve. Donc il y a un truc de copain, mais c'est ça le cinéma aujourd'hui, c'est un cinéma de dynastie, donc il a pioché dans la dynastie, bon voilà. C'est charmant, c'est parfois drôle, souvent farfelu, mais c'est tout petit. Moi j'y ai vu peut-être un testament.
Ah,
c'est... oui, un film testament pour lui.
Ah oui.
Voilà, oui.
Bon.
Mais c'est pas triste, un testament.
Non, non.
Ça fait le bilan.
C'est pas gay non plus.
Oui, mais non, mais quand on voit un film comme ça, on a envie de dire à Pascal Thomas, continuez.
Oui, mais il a peut-être pas envie de continuer. Là, il l'a fait de briquet de broc. On sent qu'il a. C'est minimaliste. Hein. Il a eu très peu de moyens pour le faire. Et il l'a fait malgré tout. On sent un peu de ça, en mettant beaucoup de son esprit. De son côté farfelu, de son côté aventurier. Oui, il s'amuse.
Et on s'amuse,
oui, parfois.
Marie-Noël.
Oui, mais ça s'essouffle un peu quand même. Ça commence très joliment, en effet, avec la fantaisie désinvolte qu'on aime chez Pascal Thomas, avec ce professeur de français dans un collège que sa femme réveille parce qu'il faut le conduire à l'aéroport et qui va en pyjama au volant de la voiture. Non, mais le début est charmant, est plaisant, amusant, qui justifie le titre, et donc il rentre, mais il peut pas rentrer, il est en pyjama à l'aéroport parce que sa femme a gardé les clés, et donc et s'ensuit après, puisqu'il reste seul, une virée plaisante dans une France qu'on aime. Alors ça, oui. C'est un charme vraiment des films de Pascal Thomas, son sens de la campagne française,
des petites routes,
des jolies rivières, oui. des villages qui ne sont pas encore morts. Ça, c'est agréable de retrouver ça, avec un plaisir d'ailleurs un peu nostalgique, parce que on se dit, ce sont les dernières images de cette France-là, de la douce France, des étés de vacances. Donc ça, c'est charmant. Et puis, il y a de l'imprévu, parce que si le film joue avec les stéréotypes, notamment du vaudeville, avec des maris trompés, des portes qui claquent, il y a aussi des réactions imprévisible du personnage principal, qui a beaucoup de charme. C'est moi, je salue Alexandre Laforie, que j'ai beaucoup aimé, qui est très minimaliste, bien élevé, charmant, plein de retenue, modeste, très très délicieux, et par cela imprévisible, parce que ce n'est pas un séducteur, c'est pas un personnage de séducteur, et donc il peut rester ou s'en aller aussi bien, il n'insiste pas, c'est pas quelqu'un qui insiste, et ça, c'est, il fait ça très joliment, avec élégance. Maintenant, c'est un peu paresseux, et à la fin, il y a quand même beaucoup de répétitions, de laisser aller dans l'écriture, et de certaines complaisances.
Bernard.
Je suis désolé, moi j'ai trouvé ça très faible, voire très sot.
Ah non !
Ah si, je trouve qu'il y a une jolie séquence qui est la séquence du procès. Ouais. Cette séquence, on l'a trouvée déjà dans Docteur Popol de Claude Chabrol avec Jean-Paul Belmondo. D'une autre manière, il y a une très jolie musique qu'on entendait dans la bande-annonce, oui, qui est composée par Rainer Wagner. Alors avec une mélodie fraîche et légère, avec quand même quelques accents doux amers. Le personnage campé par Annie Dupéré, je trouve, tire son épingle du jeu. Elle répète ses funérailles avec majesté chez elle pour le fameux jour où. Et c'est un personnage qui a autant de fantaisie que d'humanité. Ce qui est très sympathique, c'est la ferveur de Pascal Thomas pour le cinéma. Vous avez toute une évocation des contrebandiers de Moonfleet, de Fritz Lang. Vous avez une allusion à Un revenant avec Louis Jouvet, à Victor Victoria. Il y a l'affiche de La nuit des masques de John Carpenter. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et le chien, je pense que c'est une allusion directe à celle qu'on n'a pas eue, son film de 1950. 1980, vous aviez un sketch très drôle avec un chien qui passe par la fenêtre. Mais maintenant, ces personnages sont quand même d'une fâcheuse inconsistance, les dialogues sont dénués d'aisance et les situations sont réfractaires à la vraisemblance. Tout ce scénario est cousu de fil blanc. Et puis, c'est une construction. Il n'y a pas de progression, mais que des juxtapositions.
Des juxtapositions, oui, oui.
Et les rires, moi, contrairement à vous, je trouve que les rires ne sont pas là du tout. La scène du cours de français, qui, même s'il finit l'année, si elle finit l'année scolaire, bah, c'est totalement invraisemblable. Il fait preuve d'une désinvolture qui est exagérée. Un professeur ne pourrait pas se conduire comme ça. Et il y a un mélange entre ode à la culture, ça c'est plutôt sympathique, Buzzati, l'opérette Ciboulette, et toutes les allusions au grand écran, les citations latines, et un épicurisme un peu courtois. Et ça fait le mariage de la carpe et du lapin. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Et un film dans le même genre, Le Cavaleur, de Philippe de Broca,
ah oui,
c'était tout de même d'une autre classe, avec aussi les dialogues de Michel Audiard. Je finirai pour conclure. Néanmoins, si vous aimez les hôtels, les itinéraires lisses et les échappées bêtes, vous pouvez tenter Le Voyage en pyjama à vos rites et périples.
Oh là là, les échappées bêtes, vous êtes gonflés quand même.
Mais ça faisait un jeu de mots.
Ah oui, c'est ça. Ben, là, attendez, on ne peut pas descendre un film sur un jeu de mots.
Honnêtement, je n'en pense pas beaucoup de bien. Et j'aime beaucoup Confidence pour Confidence, et celle qu'on n'a pas eue, et des précédents films de Pascal Thomas, mais pas celui-ci.
Bon. Alors, il nous reste 2 ou 3 minutes, ça va aller très très vite, pour que vous nous donniez chacun un titre ou deux de films que qui nous auraient échappé, oui, moi, et dont il fallait parler ici.
Non, moi, j'ai pas pris de film, j'ai pris simplement le festival qui était fait autour de Télérama, qui a choisi les films de l'année, un petit peu, pour les projeter, voilà. Il y a Anatomie d'une chute, il y a Le règne animal, il y a les Fadelman de Spielberg, il y a Le procès Goldman, Les feuilles mortes de Coris Maki, Le ciel rouge de Pezzol, dont on avait parlé ici, L'enlèvement de Bellocchio, Nostalgia, et The Quiet Girl, qui était pas mal du tout, Bernard. Voilà.
Bien sûr, toutes ces 10, vous en avez 10, 11, 12, oui. Il y a, je crois, que 2 films dont nous n'avons pas parlé ici. Oui. Donc, on a eu le flair.
Il y en a quelques-uns dont on n'a pas parlé.
Oui, donc nous avons eu le flair. Vous voulez nous parler de Vermine?
Oui, Vermine, un film fantastique français de Sébastien Vanitschek, avec des araignées monstrueuses qui viennent à sortir dans un immeuble en banlieue parisienne. C'est assez étonnant, avec des araignées qui brillent de crédibilité, avec un jeune personnage. C'est très ambiance banlieue rap, avec un certain folklore rustique et authentique, mais c'est très sympathique, avec notamment une séquence de traversée de couloirs dans l'obscurité, avec des toiles d'araignées et des araignées qui grouillent dans une semi-obscurité. C'est un petit peu dans la lignée de Tarantula, en moins réussi, Arachnophobie ou Arachattack. Mais c'est vrai que le fantastique français est très rare, hormis Peau d'âne, Traitement de choc, Les yeux sans visage, Délicate et saine. Et c'est sympathique, une tentative française. Maintenant, l'histoire reste quand même un peu famélique. Mais c'est une tension plutôt plaisante, avec une épouvante incertaine. On peut aller le voir pour voir un film, une création à la toile et à la vague peur.
Mais vous aimez avoir peur au théâtre, au cinéma?
Oui, beaucoup. Mais c'est très rare.
Ah oui, mon Dieu.
On est bien content que Bernard l'ait vu pour nous et que nous en ayons été dispensés. Ah oui, qu'il garde ses araignées admirablement.
Vous avez quelques secondes pour un titre?
Pour un merveilleux film coréen, premier film qui s'appelle Past Lives, Nos vies d'avant, de la coréenne-américaine Céline Song. C'est un amour d'enfance qui traverse les années, qui commence en Corée entre 2 enfants, et puis brusquement interrompu par le départ de la famille de la petite fille qui va grandir en Amérique. Et tandis que lui, le garçon, reste en Corée, devient ingénieur, elle devient écrivain, ils se retrouveront 12 ans plus tard par Internet uniquement, se perdront de nouveau de vue, se retrouveront enfin 12 ans plus tard. C'est tout un... un très beau film sur les affinités profondes, ce qui lie les êtres, que ce soit accompli ou non.
J'adore ça.
Que c'est, oui, c'est merveilleux, c'est merveilleusement écrit avec beaucoup d'intelligence et de raffinement. Et puis, il y a tout cet arrière-plan, en effet, de ce qui nous lie.
Le générique est en...
Past Lives, voilà. Nos vies d'avant de Céline Song, à ne manquer pour rien au monde.
Merci à vous trois, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borde et Bernard Milioni. Merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, et puis François Dieudonné, Philippe Alpeux, chez Camille Meyer pour la réalisation technique de notre rendez-vous. Demain jeudi, nous dialoguerons avec Fabrice Adjadj pour son livre Des loups déguisés en agneaux aux éditions du Cerf. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, et je vous embrasse.